Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, c'est l'heure de Terre débattue, votre podcast quotidien pendant Roland-Garros. 11e journée porte d'Auteuil et pas mal de sujets de débat en perspective aujourd'hui, avec déjà l'élimination d'une des favorites dans le tableau féminin, Iga Świątek. Elle fera l'objet de notre question qui fâche avec nos débatteurs du jour, Camille Pin, Bertrand Millard et Cyril Morin. Salut à tous les trois.
Salut à tous.
Salut Adrien.
Salut Adrien, salut à tous.
Nous évoquerons également la qualification de Rafael Nadal pour les demi-finales, ce sera notre débat du jour, sans oublier la stat de Jeux 7 et Maths, le compte Twitter dont nous sommes partenaires, et les affiches de jeudi avec les deux demi-finales dames. Terre débattue, c'est parti. Le débat du jour concerne Rafael Nadal qui s'est débarrassé de Diego Schwartzmann en quart de finale 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. J'ai écouté votre échange mardi sur le quart de finale Tsitsipas-Medvedev. Il y avait débat pour déterminer si cela avait été un bon match. Et celui-ci, est-ce que c'en était un, selon vous ?
Ah oui, c'était magnifique. Moi, je dirais presque mieux, parce qu'il y a eu un petit peu plus, on va dire, d'adversité. On avait l'impression que Schwartzmann avait quand même les capacités, s'il avait réussi à prendre le troisième, à embêter vraiment Rafa. Alors qu'on voyait la dernière fois face entre Tsitsipas et Medvedev que Medvedev était peut-être un petit peu juste, avait les clés sur quelques moments, mais peut-être pas dans la durée. Et là, il a été magistral, Diego Schwartzmann, qui, on le rappelle, était au fond du trou la semaine dernière. Donc, le petit bonhomme, il a été exceptionnel, en tout cas par rapport à ce qu'il a pu produire avant. Je pense que l'effet Roland l'a galvanisé. Il aime bien jouer aussi Rafa. Il n'est pas forcément gêné par son lift malgré sa petite taille. Enfin, il est étonnant, ce garçon, je trouve.
Vous pensez qu'il aurait pu quand même gêner plus que ça Nadal s'il avait remporté le troisième set ? Il reste quand même Nadal.
Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais,
il a gagné quand même.
Je vais être un peu plus mesuré que Camille. Alors, je sais, c'est très dur, hein, parce que déjà, prendre un set à Rafa sur terre battue, et à Roland-Garros particulièrement, c'est très difficile, parce qu'on sait qu'il arrive prêt à Roland-Garros, donc d'autant plus difficile. Mais ce que je reproche un petit peu à Schwartzmann, évidemment, tout ce qui a été dit par Camille est vrai, il ne jouait pas très bien en arrivant ici, donc il fait quand même un très gros tournoi, etc. Mais c'est comme toujours, finalement, il y a un point qui fait basculer le tout. Le premier set est largement dominé par Nadal. Je dirais que c'est un bon match pendant un set et demi, deuxième et jusqu'au milieu du troisième. Seulement à 4-3, si je ne dis pas de bêtises, 3-3 ou 4-3 au troisième pour Schwartzmann. 30A, un coup droit presque penalty, un coup droit en tout cas d'attaque dans le filet. Et c'est la fin du match, ce coup droit pour Schwartzmann. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher cette balle de break. D'ailleurs, il y a 4-4. D'ailleurs, il va marquer 7 points. Jusqu'à la fin du match, 7 points sur donc les 12 jeux qui restent. Donc, ouais. Les 9 jeux qui restent, pardon. Donc, 7 points en 9 jeux, on ne peut pas dire que c'est un grand match, non. Malheureusement, il aurait fallu qu'il puisse tenir plus longtemps, gagner le troisième éventuellement pour vraiment mettre la pression à Nadal. Là, c'est un peu le scénario classique, c'est-à-dire il y a un joueur, un terrien qui s'accroche, qui fait un gros match. Il a déjà fait Schwartzmann ici contre Nadal et il a mené un 7-1 break il y a 2 ans. Voilà, mais malheureusement, au bout d'un moment, il y en a un qui continue sur sa lancée et l'autre qui a un énorme stop physique ou mental parce qu'effectivement, c'était un tournant important du troisième set et derrière, c'est le rouleau compresseur. Donc malheureusement, ça n'en fait pas un
après,
un grand
pendant
match.
Deux sets, Bertrand, on s'est quand même régalé. Ils nous ont régalé les deux. Effectivement, pas sur l'ensemble du match, mais il y a eu deux sets exceptionnels. Ouais. C'était très agréable à regarder et, parce qu'en plus, ils ont un jeu quand même de terrien tous les deux et ils nous ont régalé.
Pas d'accord, Cyril.
Non, parce que j'ai quand même vu un Nadal qui faisait beaucoup de fautes inhabituelles, mine de rien. Ça a été un petit peu, dans cette quinzaine, il en a fait quelques-unes. Il avait fait un très mauvais début de match aussi face à Sinner. Pour un grand match, il faut aussi deux grands acteurs. J'ai trouvé que le Nadal du début de match n'était pas forcément, avait pas l'œil du tigre. Par contre, quand il s'est réveillé, après, il était injouable. Voilà, le dernier set, c'est un carnage absolu. Donc, pareil, je suis un peu dubitatif sur l'idée du grand match, parce qu'en réalité, il n'y avait qu'un seul homme qui avait les clés du match, c'était Nadal, et que Schwartzman, il a fait ce qu'il a pu, mais il n'a jamais réellement eu le moyen de faire beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il a fait.
Un 7 partout et 3-3, ouais. Il y avait quand même match. Enfin, toi,
ah oui, mais justement.
J'ai l'impression que c'était vraiment à sens unique pour attaque avec un acteur. Je ne suis pas trop d'accord.
Non, ce que je veux dire, c'est que le problème de Nadal, c'est qu'il faut le faire douter. Il faut vraiment le faire douter. Et pour le faire douter, ce n'est pas facile. Si Schwartzman break à 4-3 et mène 5-3 au troisième service à suivre, il y a peut-être moyen de le faire douter. S'il va chercher le troisième, je pense quand même qu'en passant devant au score, c'est déjà une énorme sensation. S'il mène 2-7 à 1 sur Nadal, et là, il peut peut-être le faire douter. À partir du moment où Nadal le voit rater ce coup à 30 ans assez facile, qu'il peut lui offrir balle de break, que derrière, il gagne son service. Moi, j'étais avec Laurent Vergne et on regardait le match ensemble. Et on s'est dit, bon, là, il va se faire breaker au jeu suivant. Ça n'a pas loupé, il s'est fait breaker, 7 perdu. Et le quatrième, on le regarde d'un œil. Parce qu'on a du boulot par ailleurs, mais aussi on regarde d'un œil parce qu'on sait qu'on sait très bien comment ça va se passer. On sait que le match est fini, évidemment. Donc le scénario, c'est le problème, c'est un film qu'on a vu 200 fois. À chaque fois, on se dit peut-être que la fin va être différente, mais finalement, c'est la même fin. Et du coup, ça rend les choses. C'est terrible parce que ça banalise encore une fois Nadal, qui ne doit pas être banalisé, ni Djokovic ni Federer. Mais c'est un film qu'on a beaucoup vu. Donc du coup, on connaît un peu le scénario quand même.
105e victoire ça sur 107 matchs. Hein. On banalise pas les exploits de Nadal, hein. C'est incroyable. Ça peut le servir, je dis ça, il n'a pas besoin de ça, mais pour c'était un petit test un peu supplémentaire pour avant d'aborder sa demi, on l'imagine, contre Djoko.
Moi, je pense que c'est toujours important d'être testé dans un tournoi du Grand Chelem. C'est quand même un test, hein, quand on est rejoint à un set partout. Nadal qui perd un set dans un match à Roland Garros, c'est quasiment toujours un événement. Donc, il perd un set, il est quand même contesté pendant une bonne moitié du troisième. Donc oui, forcément, s'en sortir, trouver les clés pour retourner le match et le finir comme ça en atomisant complètement Schwartzman sur la fin, c'est important. Mais après, le prochain match, si c'est Djokovic, c'est vraiment complètement à part. C'est la plus grosse rivalité peut-être de l'histoire du tennis de par le nombre de matchs qu'ils ont joué l'un contre l'autre. C'est le joueur qui l'a le battu le plus souvent sur terre battue, c'est le joueur qui lui a pris le plus de sets à Roland-Garros, donc c'est toute autre histoire. De toute façon, c'est un match qu'il abordera différemment.
On va y revenir sur ces stats.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Vas-y Cyril.
C'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Au moins sur le paramètre physique, c'est-à-dire que Schwartzman, c'est quand même embêtant, il faut frapper plusieurs fois. C'est souvent des rallyes qui sont proposés. Effectivement, on se projette tous sur la demi-finale face à Djokovic. Et Schwartzman, ça permet de… Voilà, on a vu Sinner. Sinner, les échanges étaient plutôt courts. Il y avait beaucoup de fautes directes. Là, on en a appris un tout petit peu plus sur Rafael Nadal et où il en était, dans sa capacité toujours à réagir. Donc oui, ça servira forcément. Et par contre, on va se projeter avec beaucoup, beaucoup d'envie sur la demi maintenant.
On va passer à la stat du jour avec notre partenaire, Jeux 7 et Match. La stat du jour concerne justement Diego Schwartzman, pour vous dire que c'est un joueur de très bonne qualité. Il est seulement le troisième joueur à avoir réussi à remporter un set lors d'au moins deux matchs face à Nadal à Roland-Garros. Les autres, évidemment, on en a parlé, Novak Djokovic, 7-7 répartis sur quatre matchs, et Roger Federer qui a pris 4-7 au Mallorquin sur quatre matchs, et donc Diego Schwartzman, 2-7 répartis sur deux matchs. Voilà, ça dit quand même quelque chose de la qualité de l'Argentin, mais voilà, au tour suivant, ce sera Novak Djokovic, celui qui lui a pris le plus de sets ici, porte d'Auteuil.
Ouais, Djokovic ou Berrettini.
Ou Berrettini, oui. Isner, c'était 2-7 dans le même match. Hein. Souviens, c'était un premier tour, et c'était un premier tour, un très mauvais tirage pour Nadal, parce que premier ou deuxième tour, je ne sais plus, mais c'est un très mauvais tirage parce qu'il déteste affronter ce genre de joueur. Alors, il déteste particulièrement sur gazon ou sur dur, mais même sur terre battue, en début de tournoi, quand il n'a pas encore tous ses repères, etc., affronter un joueur qui ne lui donne pas de rythme, pas d'échange, qui sert comme un mutant. Quand il faisait beau ce jour-là, je me souviens, donc son kick prenait énormément au service, plus est capable de faire, je l'ai vu l'autre jour contre Tsitsipas, je crois qu'il a fait 20 aces hein, en 4-7. Donc ça, il n'aime pas du tout. Donc Isner, c'était finalement… presque pas logique, on ne va pas dire logique, mais on comprend pourquoi il est embêté. Et il n'y en a pas beaucoup après, hein, comme tu l'as dit Adrien, Schwartzman, effectivement, prendre 2-7, c'est déjà magnifique, mais c'est insuffisant. Alors jusqu'à quel âge, hein, parce que là, Nadal, il a quand même fêté ses 35 ans, L'autre jour, Medvedev a dit que Roger Federer serait encore en course pour le titre à Wimbledon à 50 ans. Et Nadal, à ce rythme-là, il le sera aussi à Roland-Garros.
Ce serait intéressant à voir jusqu'à quand, notamment le Mallorcain. Est-ce qu'il s'arrêtera en pleine gloire ou est-ce qu'il attendra patiemment? Il jouera encore quelques matchs de prestige jusqu'à 40.
Mais non, mais là, le truc, c'est toujours la même. 20, 20, 18. Si Nadal passe devant, là, il est à 21. Mais il y a un Djokovic derrière qui peut encore en gagner, qui peut éventuellement le rejoindre.
Ils ne vont jamais s'arrêter.
Donc, ils ne vont pas s'arrêter tant que ce ne sera pas… Ouais, c'est ça. Ils vont s'arrêter le plus tard possible, quand physiquement, ça…
Le premier qui s'arrête, qui a perdu. Hein, que leur...
c'est ça.
Super. On va passer désormais à la question qui fâche.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
La question qui fâche concerne Iga Świątek, la favorite pour beaucoup de monde, notamment ici dans ce podcast, dans Terre débattue, mais qui est sortie dès les quarts de finale face à Sakkari, 6-4-6-4. Alors, cette question qui fâche, l'a-t-on vue trop belle dans ce Roland-Garros 2021, Camille?
Alors, écoute, je l'ai vue sortir d'un double très pressé. Je ne sais pas, elle était peut-être inquiète, un peu plus inquiète cette année d'aller défendre ce titre-là. Elle n'a pas voulu répondre à une interview parce qu'elle avait joué 3 heures en double. Enfin, donc, je me suis dit, tiens, elle n'est peut-être pas aussi sereine que ce qu'on le croit. Honnêtement, depuis le début de ce Roland-Garros, elle semblait être largement au-dessus. Et peut-être qu'elle aussi, elle se sentait, comme l'année dernière, prête à remporter ce tournoi sans perdre un set. Et puis, même si ce tournoi est complètement ouvert, quand on voit les demi, on en reparlera à un moment donné, mais c'est complètement fou d'avoir 4 joueuses comme ça. Mais on pouvait s'y attendre, bien évidemment. Et peut-être qu'elle s'est faite surprendre par petit excès de confiance, parce qu'elle jouait très bien, à juste titre, face à une Sakkari qui est une joueuse avec un mental hallucinant. Là, on avait vraiment, je dirais, les deux joueuses actuelles jeunes qui ont le mental le plus fort de cette génération. C'est-à-dire que Sakkari, elle était en passe sur un de ses tours précédents d'être éliminée, où elle a un mental d'acier et elle a peut-être eu quelqu'un à sa hauteur, Świątek, sur ce match-là. Et elle s'est faite prendre sur 2 sets serrés, mais elle va peut-être apprendre beaucoup de cette défaite. Pour le coup, parce que l'année dernière, elle avait fait cavalier seule et c'était presque étonnant qu'elle gagne aussi facilement tous ses matchs. Et là, elle commence à avoir des joueuses qui ne sont pas membres du top 5, et bien qui, grâce à cette force mentale et des qualités physiques hors normes, qui peuvent la challenger. Et peut-être qu'elle elle était un petit peu trop sereine, tout en sentant qu'il lui fallait du jus, parce qu'elle a quand même passé du temps en double aussi. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir, derrière, continuer simple et double? Elle va peut-être réajuster ses choix par la suite, parce qu'elle est toute jeune. Mais ce n'est pas non plus dramatique. Hein. Moi, franchement, qu'elle regagne 2 fois d'affilée, on le disait sur les premiers podcasts, que moi, pour moi, ça aurait été un exploit. À son âge, de revenir et de gagner malgré le tableau ouvert, vraiment chapeau quoi. Donc, je ne suis pas surprise qu'à un moment, elle se fasse barrer la route par une joueuse un petit peu plus âgée qui va aller la chercher sur des choses qu'elle n'attend pas. Voilà, je ne suis pas non plus surprise.
Adrien. Elle a été rattrapée un peu par la pression de ce doublé qui lui était promis, Cyril?
Ouais, c'est ce qu'elle a expliqué en conférence de presse. Très bien d'ailleurs, c'est que en fait, elle avançait à une telle vitesse qu'elle n'a jamais pris le temps de se retourner quasiment. Depuis son Roland-Garros de l'année dernière, elle a beaucoup joué, elle a beaucoup gagné. Et en fait, elle s'est fait faucher dans les derniers jours. Il y a eu beaucoup de stress qui s'est accumulé et elle a mal dormi, elle a mal récupéré. Derrière, ça a fait aussi ce décalage physique qui s'est ressenti dans sa cuisse pendant le match. Donc, effectivement, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, surtout dans sa conférence de presse, c'est qu'elle disait, c'était un jour sans. Ça arrive dans une carrière, il y en aura d'autres. Avoir ce discours-là à 20 ans, quand on sort d'une grosse déception comme ça, c'est quand même preuve d'une maturité assez importante la concernant. Donc oui, elle a eu du mal à gérer ce statut malgré ce qu'elle a essayé de nous faire croire depuis le début. Elle a essayé de prendre les choses les unes après les autres, etc. C'est forcément, forcément compliqué d'assumer un tel statut de favorite, surtout à 20 ans, surtout quand personne n'a réussi à le faire depuis Justine Hénin. Donc oui, à un moment, on est rattrapé par ces démons, entre guillemets. Mais c'est tout à fait normal et c'est presque sain.
La question, Adrien, c'était est-ce qu'on l'a vue trop belle ? Je ne crois pas qu'on l'ait vue trop belle parce que quand tu as gagné 22 sets d'affilée à Roland-Garros, forcément que tu fais quand même figure d'épouvantail et de favorite largement, qui plus est, dans un tableau plus couvert avec toutes les têtes de série principales qui avaient perdu rapidement. C'est quasiment jamais vu d'avoir aucune des 8 premières têtes de série en quart de finale. Donc, je ne pense pas qu'on l'ait vue trop belle. En revanche, Adrien, toi qui aimes Terre débattue et qui présente Terre débattue, tu te souviens que dans les numéros précédents, on a parlé des matchs. Et qu'est-ce que je t'ai dit ? Alors là, j'ai, bien sûr, c'est un petit peu d'autosatisfaction, mais je t'ai dit que s'il y avait une joueuse qui allait l'embêter, ce serait Sakkari. Tu te souviens de ça ? Ben voilà, c'est ce qui s'est produit, parce que là, on parle beaucoup de Swiatek, mais il faut parler aussi de Sakkari, qui a fait un super match. Et comme l'a dit Camille, elle a maintenant cette expérience. Elle a un physique de mutante. C'est un tank. Elle est extrêmement costaud. Elle est mentalement, je trouve, monstrueuse, parce que gérer le medical timeout de 2-0 deuxième, que j'ai trouvé très moyen personnellement, parce que ça c'est en milieu d'un jeu, on sent que c'est au moment où elle est vraiment pas bien et que si on joue le jeu suivant, il y a probablement 3-0 et que c'est quasiment fini. Voilà, ça dure 10 minutes. Moi, je suis contre, de toute façon, les MTO et surtout dans des moments comme ça, que c'est même pas un changement de côté. Je me suis dit là, c'est vraiment là qu'on va voir si la grecque est forte mentalement, parce que, et les premiers points d'ailleurs, elle y est pas. Les deux premiers points qui suivent, elle fait deux fautes directes. Je me dis, ouais, ça y est, ça va tourner, parce que Sakkari a eu le temps de bien réfléchir au score, là, etc., d'une première demi en grand chelem. Et elle a été épatante derrière, parce que Swiatek a gagné ses jeux de service. Donc, elle n'avait qu'un break d'avance. Et elle a géré ses jeux de service. Alors, le dernier, elle mène 40-0. Elle ne passe pas de première sur les trois balles de match, mais elle fait de seconde balle sur la troisième balle de match, qui est exceptionnelle. Une énorme seconde comme service gagnant. Sakkari a été un monstre physique et c'est aussi, je trouve, un monstre mental. Faut pas oublier, et Camille va pas me contredire, le match contre Mertens qui a duré très longtemps sur le court Simone Mathieu, où elle a perdu le deuxième au tie-break après avoir gagné le premier, après avoir été en mesure de gagner.
Elle avait balle de match quasiment.
Voilà. On se dit, elle va s'effondrer, elle va prendre 6-1 au troisième.
Elle a été, mais exceptionnelle. Elle a pas dit un mot. Ouais. Et elle a repris comme si elle n'était pas touchée d'être passée à un point d'une très belle victoire. Je me disais, mais elle est exceptionnelle. Humainement parlant, c'était pas normal qu'elle gère comme ça. Et ça, c'est les grandes championnes qui arrivent à se dépasser. Elle a gardé la banane, elle a gardé l'enthousiasme. Elle est très enthousiaste et elle fait beaucoup de bien au tennis féminin, ouais, parce qu'elle ne se plaint pas. Elle n'est pas dans le medical time-out au moment pour… Non, non. Elle n'a pas géré le second set, et bien elle réattaque. Et je suis ravie que cette joueuse-là arrive à éclore sur ce Roland-Garros, parce qu'elle le mérite, comme disait Bertrand, au niveau physique et mental. Après, tennistique, surtout, elle sert très bien. Ce n'est pas un grand gabarit. Ouais, ouais. Et elle fait beaucoup de points avec son service en première et en seconde. Elle s'en est sortie face à Mertens, notamment grâce à sa première balle.
On l'a pas vu trop belle, Swiatek, mais on a vu aujourd'hui que simplement qu'elle avait le fameux jour sans. Et le fameux jour sans, il peut toujours arriver en grand chelem. C'est vrai qu'elle était quand même un peu à l'envers, qu'elle a fait pas mal de fautes. Et en face, encore une fois, c'était solide jusqu'au bout, parce qu'une joueuse un peu moins expérimentée, qui aurait un peu plus réfléchi après le temps mort médical, je pense qu'elle aurait pu, ça aurait pu tourner.
Ça l'attrape, ouais.
Mais après, effectivement, la question que Camille a posée, elle est vraie aussi. Hein, l'enchaînement simple et double, c'est de moins en moins courant pour les joueurs-joueuses. Alors, un peu plus pour les joueuses, parce que c'est en 3 sets. Donc, il y a plus de joueuses de simple qui jouent le double par rapport aux garçons. Mais
Pavlyuchenkova, elle vient de jouer 2h30 écart en double. Il faisait 30 degrés.
Ouais.
En plus, pour perdre, elle joue sa demi demain.
Ouais, ouais, bon, ça peut jouer, hein, c'est vrai.
C'est pas risqué, c'est un moment ou un autre. C'est pas un mauvais calcul. Faudrait pas se retirer d'un tournoi de double quand on arrive en quart ou en demi.
Après, il y a Krejcikova qui est en demi, qui a joué le mix, le double. Elle fait son tournoi, elle joue tous les jours. Elle se pose pas de questions, elle se plaint pas. Elle est exceptionnelle aussi. Hein.
Elle a plus d'ambition. À la base, elle a plus d'ambition en double, normalement, Krejcikova. C'est vrai que là, cette année…
Le simple, c'est bonus, quoi. C'est bien, je fais demi en simple.
On va y venir dans nos affiches du jour.
Voilà, tout ça pour dire que… Sakkari a quand même aujourd'hui mérité sa victoire, et que Il y a plusieurs petites choses mises bout à bout, un problème physique à la cuisse, un jour un peu sans, et cette série de 22-7 gagnée consécutivement, a volé en éclats. Mais je ne pense pas qu'on l'a vue trop belle pour autant, parce qu'elle était quand même largement favorite.
On suivra en tout cas avec attention.
Par contre, on la reverra.
Ouais, c'est ça, on la reverra. On la reverra.
Pas trop s'inquiéter, quoi. Voilà.
Ouais, c'est pour ça. Ouais.
On suivra avec attention ses rebonds, voir ce qu'elle nous donne sur sa saison de gazon qui va commencer très vite après Roland Garros. Vous avez commencé à en parler de Pavlyuchenkova, des autres qualifiés pour les demi-finales. On va en parler désormais dans nos affiches du jour. Les affiches du jour, parce qu'il y en a deux, on a choisi de ne pas choisir en fait aujourd'hui, puisque c'est le jour des demi-finales dames, avec d'un côté Pavlyuchenkova contre Zidansek et de l'autre côté Krejcikova contre Sakkari, dont on vient de parler. J'ai envie de vous entendre d'abord sur la première demi entre Pavlyuchenkova et Zidansek. Est-ce que vous voyez Voilà, c'est la première confrontation entre les deux. Qu'est-ce que vous voyez comme type de match? Ça ne va pas être simple à gérer, une demi-finale de Grand Chelem pour les deux?
C'est pas facile à gérer une première demi-finale de Grand Chelem, c'est clair. Mais quand c'est pour les deux, évidemment, ça, on va dire 0-0 la balle au centre. Après, Anastasia Pavlyuchenkova, c'est quand même pas une néophyte. C'est la plus expérimentée des deux joueuses. C'est une joueuse qui a été d'abord une excellente junior. Elle était numéro un mondial en junior et on pensait qu'elle allait faire une très très grosse carrière en senior. Elle a fait une très belle, carrière.
Elle a été 13e, hein,
voilà, mondial, elle fait une très belle carrière, mais peut-être pas à hauteur de ce qu'étaient ses résultats en junior, mais ça on peut jamais trop présager. Mais je trouve que depuis un moment, elle joue probablement plus libérée. C'est quand même une joueuse aussi qui est assez nerveuse. On l'a vu parfois se tendre, perdre des matchs.
Elle a un jeu à risque, donc
Donc elle se tend souvent et là je trouve qu'elle est peut-être un peu plus détendue. Alors je sais pas, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est dans sa vie privée, je sais pas ce qui se passe. En tout cas voilà, je trouve qu'elle est un peu plus détendue et qu'elle joue de mieux en mieux. Donc je trouve que par rapport à l'expérience qu'elle a, elle partira favorite de sa demi-finale. Mais l'élément dont on a parlé Camille, le double très long aujourd'hui, ça va peut-être peser un peu dans les jambes, même si en double évidemment c'est pas un match de simple. Mais enfin quand même, il y a aussi une énergie mentale quand même qui est dans laquelle on puise. Et puis, Zidansek, c'est vraiment la grosse surprise. Elle a fait une très belle fin de match contre Badosa sur le quart de finale. Solide aussi.
Quel cran elle a, cette.
Ouais, elle a du cran, elle joue bien. Ça reste assez ouvert quand même. Et l'expérience est du côté de Pavlyuchenkova. Attention à ne pas retrouver ces vieux démons. D'être favorite d'une demi. Attention.
Moi, je dirais qu'on en avait parlé. Donc, toi, tu étais dans cette partie de tableau pour Sakkari. Moi, j'avais évoqué Pavlyuchenkova, donc qui est en demi. En revanche, je trouve ce match extrêmement dangereux pour elle parce que cette jeune Slovène, si je ne me trompe pas,
c'est ça, ouais.
A un tempérament et un courage pour son âge qui est assez exceptionnel. Tout comme le mental de Sakkari, on a des jeunes joueuses là qui arrivent qui ne se posent pas beaucoup de questions. Et je pense qu'Anastasia a souvent justement péché par trop de réflexion pour un jeu à risque. Et que je pense que Zidansek va pouvoir tirer son épingle du jeu sur cette demi malgré son manque d'expérience. Parce que face à Pavlyuchenkova, en fait, il faut arriver à la déstabiliser assez rapidement dans le point, parce que dès qu'elle est installée, elle a une puissance, une lourdeur de balle, notamment au retour, qui est assez exceptionnelle. Et cette jeune fille Zidansek, elle a cette capacité, avec son coup droit notamment, d'aller tout de suite chercher l'ouverture et de faire très mal. Et moi, je pense que Pavlyuchenkova va être à un moment de sa carrière où elle se dit « tiens, j'ai une carte à jouer », qu'elle va être un petit peu plus tendue. Donc, moi, je suis un petit peu plus mesurée. Je ne la vois pas forcément favorite, Pavlyuchenkova, sur ce match par rapport à ce qu'on a pu voir tout au long de ce tournoi de la part de Zidansek. Attention à cette jeune fille.
Je suis convaincu par Camille. Très bonne analyse, je trouve.
Ouais,
on verra demain. Si elle va prendre un et un. Et puis, tant pis. J'espère que vous m'aimerez quand même dans ces cas-là.
Sur l'autre demi-finale, Krejcikova contre Sakkari. Alors, Sakkari, on en a pas mal parlé. Krejcikova en face. Il y a eu deux oppositions entre les deux joueuses. Et à chaque fois, deux succès pour Krejcikova à Dubaï en 2021 et à Toruń en 2014. Cyril, est-ce que tu vois Krejcikova gêner Sakkari?
Ouais. Disons que fatalement, celle qui a fait tomber la favorite a récupéré la pancarte. On a envie de dire presque, parce que de ce qu'on a vu de Sakkari aujourd'hui. honnêtement, elle était vraiment très impressionnante. Donc, je vois mal. Alors, j'ai regardé les deux matchs aujourd'hui. C'est vrai que face à Goff, elle s'en est bien tirée. Mais Sakkari laisse une impression vraiment. Elle a des schémas de jeu qui sont très précis. Un coup droit qui fait très très mal physiquement. Elle est au-dessus de la mêlée. Donc, j'ai du mal à avoir une autre issue qu'une victoire de Sakkari, très honnêtement.
Elle a une lucidité aussi, Sakkari, dans le jeu aujourd'hui. Quand Swiatek est revenu du temps mort médical, c'était le moment de trembler un petit peu éventuellement pour Sakkari. Elle a joué des amortis à contre-pied, en coup droit, des coups très justes. Ces moments où on dit, oh là là, là attention, ça, la balle revient un peu plus amortie pour faire courir son adversaire. Elle a beaucoup joué le coup droit de Swiatek. Elle a bien vu que c'était côté coup droit, que la douleur faisait plus de mal à la Polonaise. J'ai trouvé qu'elle a joué juste jusqu'au bout. Ce qui n'est quand même pas donné, hein, en quart de finale le Grand Chelem face à la favorite du tournoi, avec énormément de lucidité. Pour vous dire une petite anecdote, Maria Sakkari, je l'ai découverte moi en qualif de l'Open d'Australie il y a quelques années. Alors ça fait maintenant quelques longues années, bien sûr. Et j'entendais une fille qui criait fort, là, qui avait une espèce d'énergie et tout. Je dis tiens, je vais aller voir ce match sur un court annexe, bien sûr, à Melbourne. Et je vois une fille qui fait des moonball. C'était le tennis à l'ancienne, des grands ronds très longs. Alors ça repoussait l'adversaire très loin, avec une espèce de puissance physique, une espèce de d'envie là, mentale. Et tu sais, je me dis tiens, cette fille, ça va être intéressant. C'est un tennis un peu à l'ancienne. Mais avec du punch, avec du lift, et puis avec une espèce de grosse force mentale, de rage, quoi. Et j'imaginais jamais qu'elle allait devenir la joueuse qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a gardé la puissance physique, elle a gardé la force mentale et la rage, mais elle a travaillé, elle a évolué tennistiquement de façon exceptionnelle. Service aujourd'hui n'a rien à voir avec celui que j'avais vu lors de ses qualifs à l'époque. Ouais. La variété de son jeu est bien supérieure. Comme l'a dit Cyril, il y a ce coup droit. Mais maintenant, elle frappe déjà beaucoup plus à plat, enfin beaucoup plus à plat, en tout cas, elle fait beaucoup plus fort. Il y a la possibilité pour elle de faire des coups gagnants assez rapidement. Il y a la possibilité de faire des amortis, il y a une variété dans les coups. Donc, elle a énormément évolué en plus. Donc, forcément, que c'est toujours très intéressant. Il y a des joueurs ou joueuses qui ont un plan A et qui n'ont pas de plan B, qui n'évoluent pas forcément énormément au cours de leur carrière. Elle a beaucoup évolué. Elle a gardé ce qui faisait déjà sa force, mais elle a évolué en plus au niveau de son jeu pour devenir une meilleure joueuse encore. Donc, je sens qu'avec le mental qu'elle nous montre pour l'instant et justement cette évolution de jeu et toutes les armes qu'elle a, elle est favorite et qu'elle pourrait justement, elle, avec cette fameuse pancarte dont parlait Cyril, quand même bien gérer ce statut de favorite demain. Je ne sais pas ce qu'on pense, Camille.
Complètement. Après, Krejcikova, elle est surprenante dans les moments chauds. Donc, là, contre Cory Gauff, on se dit, bon, bah, elle va prendre peut-être 2-7 accrochés. Puis, sur les balles de 7, elle envoie 2 coups droits dans la lucarne, sans réfléchir, enfin, parfait. Et donc, elle est extrêmement surprenante. Moi, ce que je pense de Sakkari, c'est qu'elle combat quand même des démons. On la sent parfois extrêmement tendue. Mais elle met cette dynamique mentale pour enrayer quelque chose de positif. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui a un rouleau compresseur et qui a pas d'émotion. Elle a des moments où elle passe à travers complet, mais en fait elle cherche tout le temps. Et ça c'est une énorme qualité chez un sportif de haut niveau. Donc est-ce qu'elle va être légèrement rattrapée parce qu'elle joue Krejcikova qu'elle devrait battre? Elle a quand même un potentiel à émotion, cette jeune fille. Et c'est bien aussi parce que c'est ça qui l'a fait progresser, c'est de sentir que de temps en temps, elle a le petit bonhomme qui lui fait « Oula, attention, tu vas gagner !» Et puis, elle essaye de le mettre de côté. Donc, ça peut être un match piège, mais vu ce qu'elle a montré tennistiquement, elle est vraiment dans une semaine de gloire et honnêtement, on a envie qu'elle aille plus loin, cette jeune fille.
Après, si on est sur la lignée du tournoi féminin, aujourd'hui, tout le monde aurait dit tiens, on va avoir Gauff, Swiatek, et on a Sakkari, Krejcikova. Donc, si on garde finalement ce qui est récurrent dans ce tournoi féminin depuis le début, on va avoir une finale entre Krejcikova et Zidanec. Mais bon, peut-être qu'à un moment donné, ça va tourner.
Ça va être le moment justement de jouer à nos petits pronostics.
Attends, juste avant le pronostic, Adrien. Vas-y. Moi, j'aimerais bien quand même juste entendre Camille sur parce qu'on en a pas parlé de ça, mais sur l'aspect technique de ce match, cette demi Sakkari, Krejcikova. Parce que Krejcikova, ça slice beaucoup aussi. Hein. Il y a de la variation aussi. Est-ce que tu penses qu'elle peut l'embêter justement avec ce slice?
Je pense que ça va dépendre de la nervosité de Sakkari. honnêtement, parce que lorsqu'elle doit conclure contre Mertens, elle fait un non-tie-break. C'est-à-dire qu'elle elle perd quasiment 6 points d'affilée. Elle qui est si solide, si entraînante. Donc, elle est capable d'avoir des moments de trou. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est Krejcikova, à l'inverse, dans les moments où elle est légèrement en danger, elle est exceptionnelle. Notamment côté coup droit. Avec ce slice aussi, elle a un peu un jeu à l'ancienne, Krejcikova. Ouais. Et les slices, lorsque vous êtes tendu dans des moments chauds, mélangés avec des changements de rythme côté coup droit, il va falloir que Sakkari, elle évacue très vite ces périodes de stress qu'elle peut avoir. Ça, on ne sait pas, elle ne sait comment elle va le gérer. Ça, plus on monte et plus, effectivement, ces moments de pression qu'elle peut ressentir vont être importants. Je pense qu'il faut qu'elle se prépare, Sakkari, à les ressentir pour bien les préparer et pour bien les gérer. Et ce slice dans les moments importants peut faire très mal à Sakkari. Je suis assez d'accord avec toi, Bertrand.
Vous avez toutes les billes désormais pour parier sur l'une, sur l'autre. On va commencer par ce match-là dont on vient de parler. Je vous laisse commencer. J'ai Laurent Vergne qui m'a soufflé son pronostic pour rester dans la course.
Il n'est pas là aujourd'hui. Il lâche rien celui-là.
Il lâche rien. Allez, vas-y Camille, pour ce match-là.
Allez, moi, 3-7 Sakkari.
Cyril ?
2-7 Sakkari.
Et Bertrand ?
Et Bertrand va dire 2-7 Sakkari.
Et Laurent, 2-7 Sakkari également. Le deuxième match, Zidanec contre Pavlyuchenkova. Je vous donne le pronostic de Laurent, comme ça vous l'aurez. Zidanec en 3.
Ouais. Ouais, Zidanec en 3 pour moi.
Joli. Cyril, parle.
Moi, je vais dire Pavlyuchenkova en 3. Allez.
Je vais dire Pavlyuchenkova en 3 également.
Je vois qu'il y a
des gros combats quand même. Hein.
Ah, il y a match. On arrive, c'est très serré.
Au niveau des scores, les totaux, Laurent 15 points, Camille 15 points et Bertrand 14 points. Donc ouais, c'est vraiment dans un mouchoir
c'est
de poche.
Ouais, là, tout se joue sur ces demi et.
C'est pour ça qu'on a décidé de faire double dose de pronostics pour un petit peu pimenter le concours. On fera la
c'est
même
un
chose.
Peu, c'est un peu Nadal, Djoko et Federer. Hein,
c'est ça, on est.
C'est ça, exactement.
En toute modestie, bien sûr.
Oui, je confirme.
Merci à tous. Terre débattue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. N'hésitez pas à nous noter et à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. D'ici là, suivez l'actu sur eurosport.fr et comme d'habitude, si vous avez le temps, allez taper la balle. Salut.
Salut à tous, ciao. Merci Adrien.
Salut tout le monde.